vous savez ce que j'ai.
Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois et présente tous les symptômes de ce qu'on a décrit comme l'hystérique.
Vous allez me guérir ?
Ça sent l'analyse ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'hypermarché, de cinéma social, de tournage documentaire, de violence, de Michael Haneke et même de Schubert. Avec Vincent Lindon, notre invité spécial Festival de Cannes à l'affiche du film La Loi du Marché, un film de Stéphane Brisé qui est en sélection officielle pour une sortie en salle mardi prochain. Un nouveau personnage en crise pour un acteur engagé jusque dans la production du film, Benoît Lagane.
Et dans cet excellent film, Vincent Lindon, comédien qui revendique un jeu physique et organique, il démontre une nouvelle fois qu'il est parfaitement, pour paraphraser Emmanuel Carrère, de plein pied dans la réalité.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui ce soir est à Cannes pour l'ouverture de la 68e édition du festival. Et 19h35, plateau analyse avec Sarah Chiche qui signe Éthique du Mikado, une lecture critique du cinéma de Michael Haneke. C'est un peu éthique de la violence et violence de l'éthique, Manu Farine.
Retour sur la liberté et le mal en Occident tel qu'Haneke les films et hypothèse de Sarah Chiche, Haneke renouvellerait la forme du pacte sadien.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le troisième journal de la culture d'Adrien Azéli que l'on ouvre sur le son du jour.
Il y a des femmes scénaristes, réalisatrices, chefs opérateurs, productrices, enfin ça a augmenté dans une proportion même je dirais discrète par rapport à l'ensemble de l'avancement des femmes dans la société, mais on a vu qu'il était tout à fait normal que les femmes travaillent dans le cinéma, que ça n'avait rien de viril et de masculin. Je disais toujours en riant quand j'ai commencé que la seule personne qui ne fait pas grand chose sur le tournage c'est le réalisateur. On n'a rien à porter, on n'a pas besoin d'être costaud. C'est vous là, vous êtes rigolo avec vos portables.
Bonsoir Adrien Azéli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il ne date pas d'hier.
Ah non, il ne date pas d'hier, c'est la voix d'Agnès Varda qui recevra une palme d'honneur à la fin de ce 68e Festival de Cannes. Elle était interrogée en 2003 sur la place des femmes dans le cinéma, une question qui revient chaque année. Agnès Varda est la première femme à recevoir cette distinction après Woody Allen, Clint Eastwood et Bernardo Bertolucci. En cette année, on a l'impression que les choses bougent un petit peu puisque le film d'ouverture ce soir est signé Emmanuel Berco. C'est la première fois depuis bientôt 30 ans que le film d'ouverture n'est pas réalisé par un homme. La dernière fois, c'était en 1987 avec un film de Diane Curis. Mais cette fois encore, sur les 19 films en compétition, deux femmes seulement ont une chance d'avoir la Palme d'Or. Deux Françaises, les réalisatrices Mai Wen et Valérie Donzelli.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. En Chine, l'équivalent du Festival de Cannes, c'est le Festival international du film de Pékin. Il s'est achevé il y a 2 semaines. Le gouvernement de Xi Jinping investit énormément d'argent pour soutenir le cinéma mainstream, mais réprime de plus en plus le cinéma indépendant.
Oui, en 2020, les Chinois seront les premiers sur le marché mondial du cinéma. Et le gouvernement de Xi Jinping fait tout pour accélérer le processus en mobilisant également de nombreuses stars françaises. Luc Besson était le président du jury du dernier Festival international du film de Pékin.
Et puis l'année dernière, c'était Danny Boone.
L'année dernière, c'était Danny Boone qui a été vu sur le tapis rouge. Mais de l'autre côté du décor, la répression est très forte. Zhang Xianmin est une figure du cinéma indépendant chinois. Il l'a subi de plein fouet. Plusieurs de ses festivals ont été annulés après de longues périodes de menaces de la part du département de la propagande. Zhang Xianmin est enseignant à l'Institut du cinéma de Pékin. Il avait obtenu son diplôme à la FEMIS, la grande école de cinéma à Paris. Tout à l'heure, il m'a répondu depuis Pékin, mais vous entendrez qu'il utilise beaucoup de métaphores puisqu'il est sur écoute.
Comment dirais-je? Je pense qu'il y a une sorte de relief, c'est-à-dire il y a des montées et des descentes de la part de l'administration. Il y a la censure traditionnelle, mais il y a d'autres précautions. Certaines autres administrations voudraient s'assurer des noms des visiteurs internationaux. Il y a eu beaucoup de problèmes et pour prendre des mots exacts, j'ai décrit auparavant que nous vivons dans des ruines de festivals. C'est compréhensible.
Et votre festival du film indépendant, est-ce qu'il va vous allez essayer de le refaire en 2015?
Ça continue très, 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 très doucement. L'exemple serait que si jamais le festival de Cannes est organisé par le Quai d'Orsay, dans notre monde qui s'appelle la Terre, le premier festival de cinéma a été créé par Mussolini. Vous connaissez cette histoire? Le premier festival du cinéma a été créé par le fascisme au nom de la gloire de l'Italie.
Sang Tsai-min a été exclu du Festival international du film de Pékin et comme il ne pouvait pas me dire pourquoi, j'ai demandé à Flora Lisha, qui est spécialiste du documentaire indépendant chinois, de nous parler de ce festival officiel. Il est organisé sous la direction du département de la propagande.
Ce sont les mêmes critères qui sont en vigueur, c'est-à-dire qui doivent aller dans le sens du discours gouvernemental, montrer une société harmonieuse où les contradictions, les conflits, les problèmes sociaux sont peu présents. Ou au contraire, on va vanter le développement économique, la constitution d'une couche sociale moyenne qui a davantage de revenus, dont le niveau de vie s'améliore, etc.
Le gouvernement serait donc gêné par les thèmes plus réalistes abordés par le cinéma indépendant.
Oui, et il durcit fortement la répression depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, au point qu'aujourd'hui, la tenue d'un festival indépendant n'est jamais assurée, y compris au dernier moment.
La nouveauté l'année dernière, c'est que la police a emporté également toutes leurs archives. Donc ils n'ont même plus de matière pour travailler, ils ne peuvent même plus montrer des films aux visiteurs extérieurs le reste de l'année. Le mode de fonctionnement est assez général. Ces dernières années, ils envoient des menaces avant le festival pour leur dire de ne pas l'organiser. Et si les organisateurs décident quand même d'essayer d'organiser leur événement, le premier jour, les policiers arrivent, coupent l'électricité, les projections sont interrompues, la police essaye, demande de disperser les participants. Si l'événement continue, la police revient, en général elle voit que ça se passe bien, elle peut éventuellement laisser le festival se dérouler, se terminer en petit comité. Ça dépend, mais même ça, ces derniers temps, effectivement, ça n'a pas été possible. Puis, éventuellement, elle emmène quelques personnes au poste pour interrogatoire, éventuellement les garde quelques jours.
Voilà, en 2014, deux organisateurs d'un festival indépendant ont été arrêtés. Et pendant ce temps, le festival officiel du gouvernement, lui, accueillait toutes les stars capables d'incarner, je cite, les valeurs centrales du socialisme ou encore de brandir haut l'esprit chinois.
On poursuit avec les brèves, Adrien.
Le réalisateur Benoît Jacquot présidera le 41e festival du cinéma américain de Deauville qui se tiendra en septembre. L'an dernier, c'est Costa Gavras qui en était le président.
Un compositeur à la tête de la radio-télévision publique en Grèce.
Le gouvernement a nommé hier le chanteur Dionysis Tsaknis, directeur d'ERT, le groupe d'audiovisuel public en Grèce. En 2013, ERT avait fermé dans le contexte d'austérité budgétaire. Sa réouverture était une promesse d'Alexis Tsipras, élu depuis janvier dernier.
Dieudonné condamné à 80 000 euros d'amende.
Le polémiste devra les payer aux ayants droit de la chanteuse Barbara. Il avait posté sur son site une vidéo reprenant l'air de son morceau L'Aigle Noir, qu'il avait renommé le Rat Noir. Le tribunal de grande instance de Paris l'a assigné au retrait de la vidéo et à l'indemnisation du préjudice moral.
Eh bien, c'est la dernière.
On commence par Cannes, alors on va finir par Cannes. C'est une histoire de tapis rouge, de selfie et de nostalgie. La polémique, avec beaucoup de guillemets, est partie de Catherine Deneuve, qui estime qu'à cause du numérique, d'Internet et des smartphones, il n'y a plus de véritable star en France. Elle qualifie par exemple la pratique du selfie d'absurde. Et elle a en la personne de Thierry Frémaux, le délégué général de ce 68e Festival de Cannes, un allié, puisqu'il dit qu'il fera tout pour limiter le nombre de selfies sur le tapis rouge parce qu'il trouve ça ringard. Et dans l'autre camp, il y a Nabila qui, elle, s'est permis de qualifier Deneuve avec des mots pas très très jolis. Donc, en tout cas, même si on se gardera bien de choisir son camp entre Catherine Deneuve et
Ah non, Nabila, le camp, il est tout trouvé, Adrien.
Ah bah, on va pas se choisir, on va bien se garder.
Moi, il est tout trouvé. Hein.
Il est tout trouvé. En tout cas, vous vous souvenez sans doute de cette photo prise par l'animatrice vedette aux États-Unis avec Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts ou encore Meryl Streep. Elle était tout simplement devenue le tweet le plus vu de toute l'histoire du réseau social.
Merci Adrien, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Peut-être quelques réactions à ce que vous avez entendu, je crois, sur la présence des femmes au Festival de Cannes, Vincent Lindon.
Bonsoir.
Bonsoir.
Non, c'est le fait de les précautions verbales aujourd'hui dans le langage qui, vous dites, ça fait 30 ans que c'est la première fois qu'une femme est mettant en scène d'un film d'ouverture, les femmes à l'honneur. Mais le problème, c'est que tant qu'on signifiera que c'est une femme plus qu'un homme, le problème continuera. Les femmes devraient être l'égale de l'homme. Dans les 50 ans qui viennent de se passer, elles ont remonté un écart absolument énorme, qui n'est absolument pas suffisant à mon avis. Mais chaque fois que vous voulez faire du bien aux femmes, en fait, vous faites du mal aux femmes. Le fait de préciser qu'il y a que deux femmes, que c'est une femme qui a mis en scène, que ça fait 30 ans qu'une femme n'a pas... Mais en fait, inconsciemment, dans le subliminal, ça rentre dans nos cerveaux et on fait « Ah, dis donc, c'est... Ouais, elles vont pas se plaindre quand même, c'est quand même pas mal, hein, dis donc, on leur fait la part belle. » Non, C'est pas une femme et un homme. C'est comme les, quand on dit black, feuge, rebeu. C'est parce que c'est mieux. Black, noir, c'est compliqué à dire noir. Alors black, ça passe mieux, c'est plus rock. Feuge, parce que juif, c'est compliqué aussi. Et rebeu, parce qu'arabe, c'est pas facile. Mais non! Non, non, c'est des hommes. Et tant qu'on dira, c'est un black, c'est un rebeu, c'est un feuge, genre, t'as vu comme je suis cool, moi, j'accepte tout le monde. Mais rien que prendre des précautions verbales comme ça, c'est de ne pas être d'accord soi-même, dans sa tête, de penser que c'est égal l'un et l'autre.
Sarah Chiche, je crois que vous êtes du même avis.
Oui, je rejoins totalement la position de Vincent Lindon. Je crois que quand on crée une œuvre d'art, quand on fait un film, quand on peint un tableau, on n'est pas un homme ou une femme, on est une personne. Point. Le reste est totalement accessoire.
Mais même dans la vie. Sans être un artiste.
Sans être un artiste, oui, ça je peux vous le garantir.
Ou en étant un artiste de sa vie, peut-être.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau, la gueule de l'emploi avec vous, Vincent Lindon, notre invité canois, puisque c'est aujourd'hui l'ouverture du festival, une ouverture qu'on a choisi de faire avec vous, qui êtes au centre du film de Stéphane Brézé, La loi du marché, sélection officielle de Cannes cette année. C'est votre troisième collaboration avec ce réalisateur. Vous êtes aussi le coproducteur du film, on y reviendra tout à l'heure. L'histoire en deux mots, Thierry est au chômage, après avoir beaucoup lutté contre son ancienne boîte et son licenciement. Il décide de tout faire pour retrouver du travail, entretien d'embauche, formation, entretien à Pôle emploi, et ça y est, il finit par trouver un emploi. Emploi d'agent de surveillance dans un centre commercial, bande annonce.
J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu, et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là.
Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise?
Ah oui, je pense, oui.
Bah, vous pensez, vous êtes sûr?
Est-ce que vous avez envisagé la vente, peut-être, de l'appartement?
Oui, mais c'est non.
C'est non? Et bah, pour quelle raison?
Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... Ça avait servi à rien.
Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel.
Ouais, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche?
Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Anselmi, vous avez été filmé. Jean-Lydie, vous confirmez?
Oui, monsieur, je confirme.
Thierry, vous confirmez?
Ça, on peut confirmer. Vincent Lindon, le film a une identité très forte. Stéphane Brézé voulait vous confronter à des non-professionnels, je le cite, pousser le système plus loin en confrontant un comédien ultra confirmé, c'est donc vous, à une distribution entière de non-professionnels. Et l'idée, c'était de vous pousser dans vos zones de jeu pas encore explorées. Et il dit que ça a modifié votre jeu. Vous confirmez ou pas vraiment, en fait?
Pas vraiment. Ouais. Mais un peu quand même. Mais pas vraiment. Parce que d'abord, le fait qu'on appelle les comédiens non professionnels, j'ai plus envie de les appeler des comédiens qui jouent pour la première fois. Parce que j'ai vu des amateurs qui n'étaient pas du tout pros, et j'ai vu des professionnels qui étaient comme des amateurs. C'est vrai que ça a modifié des choses, mais en fait, je n'en suis pas là. C'est-à-dire que quand on joue une scène, ou du moins quand on l'incarne, je fais un raisonnement par l'absurde, comme on faisait en mathématiques quand on était en terminale. Ouais. Quand je suis en face d'un professionnel, jamais il m'arrive de me dire, tiens, je suis en face d'un professionnel. Donc, quand je suis en face d'un non-professionnel ou d'un acteur qui n'a jamais joué, pareil, mon cerveau ne s'occupe pas de ça. C'est juste que eux, surtout pour eux, ça donne une véracité absolument incroyable parce que ils n'ont pas l'habitude et la technique de calculer pendant qu'ils jouent ce deuxième petit cerveau qui note si c'est bien ou pas bien. Donc la sincérité va bon train et ils sont complètement immergés dans leur personnage. Du coup, comme ça se joue à deux, parce que c'est comme l'amour, ça se joue à deux, il y a un ton qui est donné, mais et je les suis. Parfois c'est eux qui mènent et je les suis, parfois c'est moi qui mène et ils me suivent. C'est comme un balai dans le cyclisme. Quand quelqu'un est un peu fatigué dans un peloton, c'est un autre qui prend la tête. Il se repose un peu, il se protège du vent et hop, il repasse devant. Mais je n'ai pas senti une différence incroyable. Une petite, oui, mais plus avant moteur et après coupé. Plus parce que j'ai appris en parlant avec eux, avant de tourner, et une fois que c'est coupé la prise. Mais vraiment, dans la prise, dans le moment où on joue les personnages, j'étais autant Thierry qu'ils étaient eux, et ils étaient autant eux que moi j'étais Thierry. Si tant est qu'on puisse être quelqu'un d'autre que soi, mais ou du moins on fantasme quelque chose et on... Non, j'ai pas... Ça m'a changé des choses, mais c'est pas flagrant. Ça n'est pas un bouleversement où tout d'un coup, assez grand pour que quand je vais me retrouver en face d'acteurs qui sont professionnels, je me dise comment je vais faire. Non. Alors, heureusement.
Ouais, peut-être que ce qui a eu un impact sur votre jeu, et ça on le sent quand on vous regarde, c'est la longueur des scènes, parfois plus de 10 minutes de jeu. Est-ce que ça, en revanche, c'est quelque chose qui est porté dans le jeu ?
C'est extrêmement, extrêmement gratifiant pour un acteur. C'est exactement pareil partout. Si je vous fais écouter une musique pendant 10 minutes ou je vous mets un extrait de 20 secondes, vous avez du mal à passer dans tous les sentiments sur les 20 secondes. Vous allez dire, oui, ça a l'air bien, mais est-ce que je peux écouter la musique en entier ? Là, Stéphane, il propose, il nous disait avant de tourner, une chose que j'adorais, il disait, prenez votre temps. Mais pas votre temps tranquillement, c'est votre temps, le temps dont vous avez besoin chacun, comme vous feriez dans la vie. Car dans la vie, on prend son temps. Quelquefois, on vous assène quelque chose dans un rendez-vous, par exemple à Pôle emploi, on ne répond pas immédiatement à l'autre. On digère, on bouge, on est mal assis, on se demande, on balbutie un petit borborythme, ça redémarre. Et c'est ce que Stéphane voulait faire, Stéphane Brisé, le metteur en scène. Il voulait absolument qu'on soit au plus proche de la vérité, voire même pas au plus proche, ça ne lui irait pas le plus proche, qu'on soit absolument, absolument vrai. Et donc, c'est un vrai entretien d'embauche. On était prévenu avant, il y a un point où il faut partir, un point où il faut aller, avec, comme un slalom, des balises à passer, des piquets. Mais après, entre ces piquets, on fait un peu ce qu'on veut.
Improvisation.
Oui, non, justement pas. Voilà. Parce que si vous prenez un segment et vous le divisez en 10, et qu'on vous dit d'aller d'un côté à l'autre, c'est rare que quelqu'un passe un piquet, parte complètement à gauche, revienne. Tout le monde prend le même itinéraire. On va au plus vite, au plus rapide, au plus aigu, au plus près de l'os. Sauf que on prend son temps et on vit. En fait, ça revient à dire, vis ce que l'autre te dit, comme dans la vie, et réponds quand tu te sens capable de lui répondre, quand tu as envie de lui répondre. Donc en fait, c'est l'art d'essayer d'oublier qu'on est acteur, donc en fait de devenir non professionnel, pour moi en tout cas, et juste. Donc c'est en ça que ça change un tout petit peu quand même. Et de voir l'effet et l'impression que me fait l'information que la personne en face va me donner. Et je lui réponds comme je le sens, mais dans un enclos extrêmement précis, avec des directives. Je lui réponds pas ce que je veux, je lui réponds par rapport à un personnage et à des bouts de dialogue que Stéphane m'a donné la veille ou deux jours avant, et par lequel je suis obligé de passer.
Oui, justement, à ce propos, Benoît
Lacombe. Oui, donc, il signale donc aux comédiens la veille des moments à jouer. Pour autant, vous avez eu le scénario entre les mains avant. C'est ce qui vous a décidé à faire ce film. Il y avait quoi dans ce scénario, alors, à la base ?
Alors, j'ai eu le scénario pour plein de raisons. D'abord, parce que je l'ai produit avec Stéphane Brisé.
Donc, il valait mieux, hein, signer
donc,
quelque
mieux
chose.
Le scénario.
Voilà. Ah bah oui.
Mais en plus, parce que Stéphane me fait énormément confiance. Et c'est pas parce qu'on lit deux ou trois fois un scénario qu'on va le connaître par cœur. En revanche, j'avais une sorte d'odeur, d'image générale, un peu de plus haut, moins que Stéphane, puisque je ne suis que l'acteur, mais quand même, une sorte de vue aérienne, et qui, j'ai tellement aimé le scénario, ça m'a tellement donné confiance, qu'après, j'ai accepté de lui rendre, car il me l'a repris, il m'a demandé que je lui rende l'exemplaire. Évidemment qu'on peut tricher, j'aurais pu tirer une copie du scénario et le garder pour moi, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans, j'ai pas l'âge, j'ai plus l'âge. Donc je lui ai rendu le scénario, mais quand vous savez que l'univers dans lequel vous allez évoluer et n'est pas hostile et que vous l'aimez, c'est beaucoup plus simple de s'ouvrir, de faire confiance et de partir. Surtout dans une entreprise comme ça où on a tourné en très peu de jours et qui est une nouvelle proposition de cinéma. Parce que ce que j'ai adoré dans ce film sur le tournage et que j'ai vu au résultat à l'écran, le départ c'est de tourner un film assez rapidement et où sans arrêt on n'est jamais précédé par la caméra. Stéphane Brisé n'attend jamais un personnage dans un endroit. C'est toujours la caméra qui nous suit, qui me suit, et qui après vient avec nous. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Et donc, du coup, à la finale, quand on voit le film, ce qu'il en ressort, et que j'adore dans les films, on n'a pas le monopole dans ce film-là, mais c'est quand même très rare et très agréable, c'est que le film ne donne pas d'ordre aux spectateurs. Il ne dit pas, faut penser comme ci ou comme ça, eux c'est les gentils, et eux c'est les méchants. Il présente quelque chose, et c'est le fantasme du spectateur qui tout d'un coup prend conscience de ce qu'il voit et se questionne lui-même en se disant « qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Thierry ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça me va pas ?» Et c'est en ça que c'est pas, il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de misérabilisme, il y a juste « voilà, je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire de cinéma, c'est une fiction, c'est pas du documentaire, c'est un vrai personnage avec une femme, un enfant qui a une vie, mais on passe au plus près de la vie, au plus près de l'os, ce qui fait que c'est ça qui m'a énormément plu, et ça je l'ai vu à la lecture. C'est pas en, je l'ai vraiment vu en le lisant, j'ai senti tout ça en le lisant.
Il y a une ligne dans votre cinéma, Vincent Lindon, elle est sociale, Welcome par exemple, aujourd'hui La Loi du Marché, il y avait les films de Pierre Jolivet, il y avait aussi La Crise de Colin Serrault, même si le tournage a été un petit peu apocalyptique, qui d'ailleurs, Colin Serrault vous appelle à l'époque parce qu'elle vous avait vu dans Quelques jours avec moi de Claude Sauté, Claude Sauté qui est aussi une des figures du cinéma social dans les années 70. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre travail avec Claude Sauté? Parce que là, on est dans une autre dimension que Stéphane Brise, c'est presque l'inverse.
Alors, je vais être très 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 franc. Je suis un des plus grands admirateurs au monde de Claude Sauté. J'ai vu ses films à peu près 60 fois et ça m'a coûté très cher quand je suis arrivé sur le tournage, parce que Claude Sauté était un personnage extrêmement boulimique et nerveux, et je crois que je l'ai énormément exaspéré à être si amoureux et si fan de lui. Ce qui fait que j'ai passé un tournage, je peux le dire aujourd'hui, mais je lui avais dit, et j'ai une admiration éperdue pour lui, un enfer. J'ai vécu... J'étais au Vietnam.
Ah, bon?
Ah oui, ah, ça a été terrible, j'étais jeune acteur, et il était très colérique, j'avais toujours peur de gêner, je n'étais pas du tout sûr de moi, et je n'avais pas confiance en moi. Ce qui a changé, c'est que je suis toujours pas sûr de moi, mais j'ai un petit peu confiance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais à l'époque, j'étais, oui vraiment, j'ai eu des moments où j'ai beaucoup douté de moi, et en fait le résultat a été, très bizarrement, c'est un des films qui a été le plus... déclencheur chez les metteurs en scène de l'envie de me prendre. Comme quoi, c'est un peu le phénomène de quand on se regarde dans la glace avant de sortir le soir, on se trouve pas mal, on dit tiens aujourd'hui je suis pas mal, et en fait tout le monde, la première personne que vous croisez vous dit t'as mauvaise mine en ce moment, t'as l'air fatigué, et inversement quand un copain dit allez viens on y va, je dis non j'ai une sale gueule ce soir, j'ai pas envie, allez ça va,
et là on sort normal.
Et paf on tombe sur quelqu'un, il fait mais non je suis très en forme. Donc à un moment, la vue qu'un comédien a de lui-même et de ce qu'il fait, parfois c'est vrai, et parfois on vous vole, les grands metteurs en scène, ils attrapent des choses qui est en fait la résistance que vous avez, et qui fait que ça en devient touchant, et que ça donne à un personnage profond et intéressant.
Benoît,
quand vous incarnez un personnage, vous dites que vous évacuez toute psychologie, que vous jouez physique et organique, pour croire à Thierry, comment vous avez travaillé physiquement et organiquement sur ce rôle ?
Je ne le sais pas moi-même, donc si je me mets à vous expliquer, je vais donc m'entendre le dire, et si je m'entends le dire, je pourrai plus à jamais le refaire. Mais plus simplement, la psychologie du personnage, je pense au cinéma que l'habit fait le moine. Comment je suis habillé, c'est quoi ma voiture, comment je mange, comment je coupe mon pain, comment je m'essuie la bouche avec la serviette. Comment je trempe le pain dans les œufs.
Vous faites tous les gestes, je le dis pour les auditeurs, vous êtes en train de le faire tous. Ouais.
Et c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'on définit énormément une classe sociale, une psychologie de personnage par rapport à la manière dont on se bouge, dont on se meut. J'ai montré un jour que à des amis que... j'ai fait un petit exemple debout, j'avais les pieds parallèles, ça n'est pas pareil que si j'avais les pieds un tout petit peu en dedans, ou les pieds un petit peu écartés. C'est trois sentiments différents. Alors, vous n'avez pas encore dit un mot. Il y en a un qui a l'air un peu genre, je suis là, il y a un problème. C'est quand on a les pieds un petit peu écartés. Quand on a les pieds parallèles, c'est bon, je suis ni plus ni moins qu'un autre, je suis là. Et les pieds un petit peu en dedans, c'est, je suis un petit peu en dedans, j'espère que je gêne pas. Et on n'a toujours pas dit un mot. Donc, je crois énormément mouvant.
Et alors,
donc,
c'est ma passion.
Et dernière chose, mon autre passion dans un film, c'est comment j'exerce le métier du personnage. Parce qu'un métier, c'est 8 heures par jour, donc un tiers de votre vie. Vous dormez 8 heures, en gros, hein. Vous travaillez 8 heures et vous vivez 8 heures. Donc un tiers de votre vie, donc c'est énorme. Et le métier, quand un acteur fait bien son métier, c'est pratiquement... J'ai pas envie de dire gagner, j'aime pas cette expression, mais il est là. On croit à ce qu'il fait. Donc tout en découle. Alors ça, c'est de la manipulation, et j'adore les films où il y a des métiers à exercer. Alors vous pourriez me répondre, justement, dans celui-là, vous êtes au chômage. Je vous dirais, oui, vous avez raison.
Au début, mais vous gagnez un métier, justement.
Et puis avant d'être au début, j'ai beaucoup travaillé quand même.
Et ça, il fallait qu'on le comprenne, exactement. Et alors, dans ce personnage, vous êtes plutôt les pieds écartés, les pieds parallèles ou les pieds en dedans?
Les pieds parallèles. Là, mais...
Mais tout peut basculer.
Tout peut basculer, mais avec le maximum de ce que j'aime chez ce personnage... et que je n'ai pas forcément moi dans la vie, il a beaucoup de sang-froid. Le sang-froid, c'est une qualité absolument formidable. Je suis en recherche de sang-froid, moi.
Lors de votre précédente venue ici, dans cette émission, c'était à propos d'un film de Philippe Lioré. Vous nous aviez dit « Je suis le fantasme d'acteur de Philippe Lioré. Il est celui que je serais si j'étais metteur en scène. » Quel metteur en scène seriez-vous alors, Vincent Lindon, si vous deviez...
On a vraiment l'esprit d'escalier, hein, trois ans après.
Si j'ai envie d'être un bon metteur en scène, il faudrait que j'ai envie d'être moi metteur en scène. Ça serait le mieux, puisque j'ai jamais fait de film et que je laisse complètement libre cours à mon insouciance, à mon inconscience. Et quand on fait un premier film, on prend des risques absolument incroyables. Il n'y a pas de metteur en scène. C'est bien pour ça que je suis acteur, et c'est bien pour ça que je ne suis pas encore passé à la réalisation.
Pas encore, ça veut dire que c'est...
Je savais que vous étiez encore l'escalier, je le savais.
Oui, mais on ne veut pas attendre l'émission prochaine, vous voyez.
Non, pas encore, parce que peut-être jamais, mais je déteste le mot toujours et le mot jamais. Donc pas encore, ça veut dire que c'est bon de faire du bien à moi. Même moi, je me dis, tiens, pas encore, ça arrivera peut-être, alors que ça n'arrivera probablement pas. Mais justement, j'ai envie de passer de main en main et de différentes manières de tourner. Et c'est ça qui est très agréable pour la vie d'un acteur. Et si j'étais metteur en scène, j'ai peur en plus d'être très intenable avec les acteurs. Parce que il faut faire une énorme preuve d'humilité. Si c'est pour avoir envie que l'acteur que vous avez choisi, généralement quand on a envie de faire un film un peu personnel, on écrit un personnage donc qu'on aura envie de jouer, donc à votre âge, donc qu'on pourrait jouer. De plus, si c'est moi qui l'écris, puisque je suis acteur. Le donner à quelqu'un d'autre, c'est un acte de générosité énorme. Mais si c'est pour aller l'emmerder toute la journée en lui disant « Non, mais moi, j'aurais pas fait comme ça », c'est impossible, on peut pas. Et je crois pas que j'ai encore cette...
Humilité.
Humilité peut-être, mais j'ai pas encore cette maturité, en tout cas, de pouvoir confier à quelqu'un d'autre ce que je pense que je pourrais faire aussi bien que lui. Et ça viendra peut-être un jour, et le jour où je le penserai, ben je passerai mon tour.
Vous êtes acteur, mais aussi producteur, et vous êtes notamment producteur associé sur ce film. À quel moment de votre parcours de comédien vous avez ressenti le besoin de passer aussi du côté de la production ?
Ah non, mais alors, pardon de vous contredire, je ne suis pas producteur, je suis producteur...
Coproducteur ici.
Sur ce film, mais qui n'est pas du tout... Ça n'est pas arrivé comme une question de « je veux être producteur ». C'est qu'on était totalement à la base, Stéphane et moi. Stéphane a évidemment écrit l'histoire, il a tout fait, mais... On était, c'est d'une idée un peu commune, et tout d'un coup, c'est à table, un jour, en déjeunant, on s'est dit, et pourquoi, si on a envie de faire ce film le plus rapidement possible, on rentrerait pas en production? Pourquoi on s'en mêlerait pas? Pourquoi on n'irait pas démarcher un troisième producteur qui rentrerait avec nous dans la boucle, qui s'occuperait, lui, vraiment de la production, puisque c'est son métier? Mais, comme disait Alain Delon dans Le Clan des Siciliens, moi, on me vire pas d'une affaire, surtout quand c'est moi qui l'ai amené. Il dit ça à Jean Gabin. Donc, voilà, c'est né comme ça, et maintenant on se retrouve coproducteur, mais on n'a pas fait le travail de producteur. D'accord. C'est ce qu'on appelle producteur associé. C'est comme les frères Darty, il y en a un qui a acheté un frigidaire au début, l'autre qui a acheté des boutiques, le troisième qui a été à MIT et à Harvard, et après le frère du milieu a dit « mais on va quand même pas garder le petit », et le grand lui a répondu « si, le premier frigidaire c'est lui qui l'a payé ». Non mais c'est comme ça que ça se passe une production.
Sarah Chiche, tout à l'heure on parlera du cinéma de Michael Haneke avec vous. Qu'est-ce que peut représenter la figure de Vincent Lindon pour vous? Est-ce que vous l'avez vu dans quelques-uns de ses films, du côté de Claude Sautet, du côté des Pierre Jolivet?
Je disais tout à l'heure, juste avant cette émission, qu'il m'avait extrêmement impressionné dans le film de Claire Denis, Les Salauds. On parlait d'absence de bons sentiments. Voilà un film qui confronte à quelque chose d'un mal radical, pour lequel on est tous foncièrement, potentiellement disponibles. Et je trouvais très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce film, La loi du marché. Alors je me disais que malheureusement, les personnes qui sont concernées directement par ce film, elles n'ont peut-être pas les moyens d'aller au cinéma pour le voir. Mais j'espère que les personnes qui font passer des entretiens d'embauche et qui se comportent de façon absolument dégueulasse et inhumaine, ou alors les gens qui se comportent avec le plus grand mépris dans les supermarchés, avec les caissières, ça les fera réfléchir à deux fois.
C'est exactement ce que l'on peut voir, même avec presque une pression documentaire dans le film.
Alors chaque soir, nous demandons à nos invités de nous soumettre un son qui les a marqués. En ce qui vous concerne, vous aviez une idée, on a essayé de la reconstituer. Extrait.
Alors, ça a l'air pas mal,
ça marche,
hein.
C'est un son, c'est en fait le bruit des adultes, des parents en général, mais des adultes, quand on est petit, qu'on dort dans sa chambre, et la porte est un tout petit peu ouverte. C'est, à mon souvenir, la dernière fois que j'ai été rassuré dans ma vie. Parce que c'est la dernière fois que je me suis dit « il ne peut rien m'arriver ». Parce que les parents, le papa, qui est quand on est petit, qui est la figure... masculine et forte, la maman qui est là et qui est la figure la plus forte, parce que dès qu'on a mal, dès qu'on pleure, dès qu'on est triste, c'est elle qu'on va voir. Ils sont là, ils sont heureux, ils ont des copains, ils ont le droit de rigoler aussi, parce que nous, on est couchés, mais ils nous oublient pas, parce que la porte est un petit peu ouverte. S'il y en a un qui pleure ou n'importe quoi, ils accourent, ils sont tout prêts. Et en même temps, c'est une idée de, quand je serai grand, moi aussi, je serai eux. Il y a quelque chose de très, très, très agréable. Et après, on grandit, on va au lycée, c'est pas rassurant, et après, on rentre dans la vie, le combat. C'est-à-dire, il faut avoir son baccalauréat ou autre chose, des examens. Ça peut être aussi des n'importe quoi, un CAP de menuiserie, peu importe. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis après, on met au monde soi-même des enfants, donc on s'inquiète. Ça y est, l'inquiétude est là à vie, puisque on ne s'inquiète que pour une chose dans la vie, c'est pourvu que mes enfants aillent bien. Et donc, il n'y a plus de moment où on peut être rassuré. Et si tant est qu'en plus on ait perdu ses parents, on devient en plus en haut. On accède en haut de la pyramide. Il n'y a plus personne pour vous protéger et il faut faire acte de protéger tout le monde. Et donc, c'est une petite nostalgie. Vous m'avez demandé un bruit. Le jour, j'ai dit, le moment encore qui était possible, c'est quand mes parents étaient là, que j'étais petit, que je les entendais à côté et que je me disais, voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, ils accourent, ils me prennent contre eux et on ne peut rien contre moi. Et voilà, donc c'est juste un bruit qui me rassure. J'aime bien qu'on me rassure.
Ça chiche, un commentaire ?
Ça me fait penser à une anecdote que rapporte Freud à propos d'un enfant qui dit « Mais peu importe que je sois seul ou non dans ma chambre, du moment que quelqu'un parle à côté, il fait clair. » C'est-à-dire la Exactement. Parole qu'on entend au loin éclaire l'enfant.
Le rendez-vous, la chronique.
La chronique du mercredi, chronique cinéma, chronique cannoise, la première pour cette année. Jean-Marc Lalanne, vous êtes sur place. Nouvelle édition du Festival de Cannes, soirée d'ouverture tout à l'heure. Un festival où les femmes ont la tête haute, puisqu'il y aura Agnès Varda qui va être récompensée pour l'ensemble de son travail. Emmanuel Berco, Catherine Deneuve, Valérie Donzelli, Mei Wen. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé ?
Non, pas plus que ça. Enfin, je trouve ça très très bien. C'est une espèce de d'avancée logique vers l'égalité. Mais moi, je vous allais dire une énormité, mais à un moment donné, quand un film me passionne, son cinéaste n'a plus vraiment de genre. J'ai l'impression que je suis dans un autre lieu. Donc je vais dire que ce soit l'axe central pour moi, la question du genre des réalisateurs.
Alors, quel est l'axe que vous avez retenu ? Quels sont les enjeux de cette édition pour vous, Jean-Marc ?
Alors, j'ai l'impression que l'axe officiel, celui, disons, la vision de Thierry Frémaux, c'est de mettre en avant un cinéma très très connecté au social. Il y a peut-être un effet post-Charlie qui fait que, par exemple, ça n'a pas été un film de pur entertainment qui est en ouverture. Il aurait pu mettre Mad Max, qu'on verra au deuxième jour. Il a plutôt mis un film très social, comme La Tête Haute.
D'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, oui.
Voilà, d'Emmanuel Berco. Et on a l'impression que les autres films de la sélection, que ce soit celui de Mei Wen, celui de Jacques Audiard, celui de Stéphane Brisé, ce sont plutôt des films marqués par un souci de prise directe avec l'état de la société contemporaine. Et donc voilà, c'est un choix très net, assez affirmé. Et du coup, certains autres gestes ont été relégués un peu en dehors de la compétition. Et moi, c'est ce qui me frappe, c'est que certains cinéastes comme ça, très radicaux, qui avaient des propositions de cinéma un peu folles, comme par exemple ce grand cinéaste portugais qui s'appelle Miguel Gomes, qui avait fait Tabou, qui avait eu un grand succès il y a 3 ans, il revient avec un film qui fait 3 fois 2 heures, c'est-à-dire ouais. 3 films qui n'en forment qu'un, et le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, ou à Pichapong Verazetakul, ce cinéaste thaïlandais génial, qui avait eu la palme il y a 5 ans pour Oncle Bunmi. On pensait assez logiquement qu'il reviendra en compétition, et il est dans la section parallèle d'un certain regard.
Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous ?
Bah, que les gestes peut-être fortement formalistes ne semblaient pas aujourd'hui d'actualité, qu'ils étaient plutôt relégués dans des sections parallèles au profit d'un cinéma assujé, d'un cinéma très social qui peut produire évidemment des grands films, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une prime comme ça à l'engagement social dans les choix de la compétition officielle.
Et votre coup de cœur à vous, ce serait quoi ? J'ai l'impression que vous avez déjà donné le nom tout à l'heure avec Mad Max, non, c'est ça ?
Absolument. Enfin, moi, il y a 2 films, pour l'instant, je n'ai vu qu'une dizaine hein, que en pré-projection à Paris. Il y a 2 films que j'adore. L'un, c'est le film d'Arnaud Desplechin, qu'on voit dans 2 jours à la Quinzaine des réalisateurs, que j'ai déjà vu, que je trouve magnifique. Et l'autre, c'est un peu le grand écart, c'est Mad Max Fury Road, le grand retour de Mad Max 30 ans après le dernier film de George Miller, et toujours avec George Miller aux manettes, et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas perdu la main, parce que le film est vraiment visuellement complètement ébouriffant, et en même temps c'est pas du tout du spectaculaire creux. Il y a vraiment, c'est un cinéma de visionnaire qui raconte le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que le grand sujet du film, à peine masqué, c'est le djihadisme et la fabrication du fanatisme aujourd'hui, dans une espèce de monde apocalyptique, mais qui ressemble beaucoup, beaucoup au monde dans lequel on vit. Et tout ça est recraché, reformulé de manière totalement délirée et hallucinée dans un film de 2 heures qui n'est qu'une poursuite. C'est vraiment une vision de cinéma stupéfiante.
Merci Jean-Marc pour cette chronique. Et bien on vous retrouvera la semaine prochaine, toujours à Cannes, toujours dans la place. À la semaine prochaine. Merci Jean-Marc. Laurent. Merci à vous.
Inzwischen weiß man, dass der Täter Maximilian B. hieß, 19 Jahre alt war und Student.
Warum bringt ihr uns nicht gleich um?
Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden nur alle um unseren Spaß gebracht.
Arrêtez. Revenez au début. Les indications de Schubert vont du cri au murmure et non de parler fort à parler doucement.
Pourquoi essayez-vous de détruire ce qui pourrait nous rapprocher?
Das war doch fantastisch. Bravo.
Plateau Éthique et cruauté avec vous, Sarah Chiche, écrivaine, psychanalyste. Vous signez Éthique du Mikado, un essai sur le cinéma de Michael Haneke, un essai coupé en deux. D'abord un long entretien réalisé à Vienne en avril 2013 et puis 71 petits fragments comme autant de pensées sur le cinéma d'Haneke, un cinéma qui accueille, dites-vous, dans une même fosse, cadavres d'enfants, de femmes, d'hommes suicidés battus à mort ou massacrés. Haneke produirait un cinéma moral qui regarde en nous et renouvelle la forme du pacte sadien. Vous ouvrez l'essai sur Funny Games, c'est-à-dire la première version qui avait été tournée par Haneke en 97, plus précisément sur la 100e minute et sur le visage d'Anna Schauber, la mère qui vient d'assister au lent massacre de sa famille. Qu'est-ce que ce plan, qu'est-ce que ce visage vient dire du cinéma d'Haneke et donc de ce que vous voulez en dire?
Je trouve que le visage donc d'Anna Schauber, incarné par Suzanne Lothar, malheureusement décédée récemment, incarne quelque chose de la nudité et de la gravité de l'existence. Pour moi, le visage de Suzanne Lothar dans Funny Games, c'est un peu la même chose que le chien de Goya. Vous voyez, c'est-à-dire l'humanité dans ce qu'elle a de plus vulnérable, de plus tragique, de plus burlesque et de plus... C'est une mère qui a perdu son enfant, qui va perdre son mari et qui sait qu'elle va se faire tuer dans quelques minutes et qui n'est plus rien, qui est dépouillée de son nom, de ses vêtements, de sa réputation. Et voilà, qu'est-ce qui reste dans ces moments-là quand une personne est déshabillée moralement de tout ça? Juste un visage nu, comme un cri.
Comment vous avez compris sa relecture, enfin, disons, le fait de retourner le même film dans une version américaine?
Ah. Alors, c'est vrai que c'est un exemple extrêmement particulier dans le cinéma, parce qu'à ma connaissance, c'est le seul film, enfin, réalisé par le même réalisateur, qui a tourné plan par plan, exactement, le même film, avec quelques exceptions près, c'est-à-dire que dans Funny Games de 1987, on voit un gros téléphone, et dans le film de 2007, on voit un téléphone portable, mais sinon, plan par plan, c'est strictement la même chose. Il y a une sorte de doublage, comme si, je crois, il s'agissait de perpétrer quelque chose du mal une nouvelle fois, c'est-à-dire, ça a eu lieu dans le film, jusqu'au bout, jusqu'au crime, et ça peut avoir lieu à nouveau. C'est-à-dire, je crois qu'en faisant ce remake de Funny Games, qui raconte donc l'histoire d'une famille qui se retrouve dans sa maison de campagne, et tout d'un coup, deux inconnus font irruption, on ne sait pas d'où ils sortent, ils sont habillés de blanc, comme des personnages de Disney, ils ont des gants blancs comme Mickey, et ils vont torturer pendant une centaine de minutes, absolument méthodiquement, l'enfant, puis le père, puis la mère. Alors, on peut se poser la question, l'enfant est tué en premier.
Le chien d'abord.
Le chien d'abord, vous avez raison, c'est extrêmement important. Dans les films de Haneke, il y a régulièrement des animaux qui sont tués, qui sont mis à mort. Alors ça peut être souvent des oiseaux, dans Le Ruban Blanc par exemple, ou dans un de ses premiers films pour la télévision, Lemmings, où il fait allusion lointainement à un canari qui aurait été tué. Après le chien, l'enfant. Alors est-ce que l'enfant est tué en premier parce qu'il est l'incarnation de l'innocence? C'est ce qu'on pourrait penser de prime abord, mais en fait, non. C'est justement pour laisser tout le loisir à ses parents de le pleurer et de souffrir atrocement de sa mort et d'envisager que le même sort va leur être réservé.
Et au spectateur de se dire qu'à partir de là, tout est vraiment possible et que même on connaît la fin. C'est-à-dire que si l'enfant meurt dès le départ, les parents vont y passer. Vincent Lindon ?
Non, il y a un autre metteur en scène qui a fait un remake de son propre film, qui est Léo McCarey. Il a fait Elle et lui et Cary Grant et Deborah Kerr.
Autant pour moi, oui.
Et il l'a fait avec Charles Boyer et Jane Greer. Mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Et je trouve ça, plan par plan, et je trouve ça très, très, très intéressant. Et l'un était en noir et blanc, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre en couleur. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est formidable. Il y a eu tout un temps de maturité, de macération, de digestion qui fait.
À combien d'années de distance
Je ne peux pas vous dire exactement, mais à mon avis, une petite dizaine d'années.
Oui, à peu près la même chose, comme chez Haneke. 10 ans.
Exactement. Bien sûr.
Quel regard vous portez, vous, sur le cinéma de Michael Haneke?
C'est un cinéma en général que j'aime beaucoup. Je préfère les films de Haneke d'avant. Je suis un peu sévère. C'est le dernier a été un peu compliqué pour moi. Amour.
Amour.
Ouais, ça m'a pas. C'est la première fois que Haneke m'a pas épaté. J'aime pas ce mot-là, mais ça m'a pas épaté. Je trouvais ça. J'avais envie de lui dire. C'est très bien, mais il manquerait plus que ça, en plus. C'est bien, c'est bien.
C'est pourtant là qu'il est devenu plus fréquentable, dites-vous, Sarah Chiche.
Voilà, tout d'un coup, bon, du fait qu'il a eu un certain nombre de prix, certains critiques qui l'avaient boudé, certains spectateurs qui n'allaient pas voir ses films, se sont dit, tiens, après tout, pourquoi pas. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, les motifs qu'on trouve dans Amour, quand on regarde les films pour la télévision que Haneke a fait pour la télévision autrichienne et pour la télévision allemande à partir de la fin des années 60, début des années 70, pardon, on s'aperçoit que tous les motifs qui sont dans Amour sont déjà présents dans ses premiers films. Par exemple, bon, la scène finale, sans trop spoiler, la scène finale dans Amour, la scène de l'oreiller, du meurtre par étouffement avec l'oreiller, on la trouve déjà dans un film de 1974 qui s'appelle « Et après ». Où il y a un couple qui se chamaille, et à un moment donné, l'un des deux va chercher jusqu'où l'autre peut l'aimer. Est-ce que tu peux m'aimer jusqu'à me faire mal, jusqu'à me tuer, etc.
Mais c'est un peu... Pardon, mais vous avez archi raison, et vous y connaissez beaucoup plus que moi. Mais maintenant que vous me dites ça, je ne l'aurais pas trouvé tout seul, mais Amour m'a un petit peu dérangé, on dirait un medley. On dirait un sorte de...
Le best-of de tous ces films.
Oui, mais en
oui, non, mais bien sûr, j'ai compris.
En beaucoup, 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 beaucoup mieux, parce que c'est un très, 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 très grand metteur en scène, c'est un artiste énorme, et qu'il a fait des films inoubliables, et que Amour est quand même un film très, très bien. Mais juste, voilà, c'est pas mon... Et comme vous me posez la question, et que c'est le dernier que j'ai vu, j'attends le prochain.
Si je puis me permettre, Vincent Lindon, vous qui disiez des choses si, si belles sur le métier d'acteur, sur cet engagement, sur cette façon d'y aller avec son corps, avec son être, vous n'avez pas été sensible à la façon que Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant ils ont pu donner.
Oui, mais on en parlera après.
Oui, mais non.
Oui, mais j'ai le respect.
Bien sûr.
Respect fou pour Jean-Louis Trintignant et pour Emmanuel Riva. J'ai trouvé j'ai trouvé des petites facilités. Enfin, je m'attendais je l'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de dire, j'en attendais pas moins. Voilà. Et quand j'en attends pas moins, ça veut dire que.
On espère beaucoup plus.
Voilà.
Sarah Chiche ?
Oui, moi, ce qui m'a intéressé dans Amour, c'est donc deux personnes octogénaires qui s'aiment depuis une cinquantaine d'années. Tout d'un coup, dans ce couple, la femme va avoir une attaque à la suite de laquelle elle va perdre l'usage de ses membres, puis l'usage de la parole, et voilà, se retrouver progressivement comme un légume. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand la personne qu'on aime, quand on la voit souffrir et se décomposer? Ce qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point ces deux acteurs, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, pouvaient jouer tellement bien qu'à un moment donné, on a l'impression qu'ils ne jouent plus. Sont dans une espèce de vérité, poussée sans doute par une mise en scène extrêmement et une direction d'acteur extrêmement radicale qui fait qu'à un moment donné, il craque. Et on voit d'ailleurs dans un très bon documentaire que je conseille, qu'a fait Yves Montmaillard.
On voit Emmanuel Riva qui est en train de craquer dans le lit.
On voit Emmanuel Riva qui craque, qui dit « Je n'en peux plus, mais j'ai compris, je ne passerai pas le film. Je vais crever, je vais m'arrêter là, etc. » Et juste après avoir pleuré comme ça, comme une enfant, Haneke tourne à nouveau la prise, et c'était pour lui, cette fois-ci, c'était la bonne scène. Elle avait donc trouvé la note juste, mais il avait fallu qu'elle passe par les pleurs et les larmes. Mais
Vincent Lindon.
Je dis ça sans doute par jalousie aussi. Parce que la même année que Amour, j'étais dans un film de Stéphane Brisé qui s'appelle Quelques heures de printemps, et où il était question de mourir dans la dignité, et où j'accompagnais ma mère en Suisse pour qu'elle donne fin à ses jours de son propre gré. Et c'est vrai que à ce moment-là, les deux films ont été présentés à Cannes. Je dois avoir une réminiscence. Et qu'évidemment, Haneke a été pris et pas nous. Et que peut-être que je suis resté avec un petit goût quand j'étais voir le film. Un spectateur, il faut oser avouer ses faiblesses. Quand vous allez voir un film, vous arrivez pas vide, vous arrivez avec plein de choses. Une envie d'aimer ou une envie de pas aimer, une envie de... Et donc j'ai dû arriver au cinéma en ayant une petite envie de pas aimer quand même.
Et ça marchait.
Et quand on a une petite envie de pas aimer, généralement, je vous jure, ça marche pas mal.
Ça radicalise.
Et donc voilà, mais en fait je suis très sévère, c'est un très très grand film. Mais...
Manu.
Votre essai Sarah Chiche s'organise en 71 fragments, en écho j'imagine à 71 fragments d'une chronologie du hasard, hein, qui est donc un film de Haneke. C'est aussi ce film-là, 71 fragments, le film dans lequel on joue au Mikado, jeu qui donne le titre à votre essai. Quelle grille d'analyse ce jeu-là va vous fournir ?
Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on perd au Mikado ? On ne perd pas au Mikado à cause de l'adversaire, mais parce que soi-même, par précipitation, par maladresse ou par mauvais calcul, on va commettre la petite erreur de trop qui fait que ça va faire bouger les autres baguettes et après c'est fichu.
C'est le jeu le plus pervers qui existe puisque c'est soi-même qui est responsable de sa perte.
Exactement, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, le cinéma de Haneke a cette particularité de convoquer le spectateur dans ce qu'il a de plus intime, de ses propres images, de ses propres fantasmes et de sa propre faute. Il y a toujours plusieurs registres de la faute dans les films de Haneke. Il y a la faute commise par les personnages. À un moment donné, ils vont commettre la petite erreur de trop qui va leur être fatale. Prêter des œufs dans Funny Games à un jeune inconnu. Dans Code Inconnu, il y a quelqu'un qui est un jeune garçon qui va jeter une boulette de papier sur une mendiante, comme ça. Il va la très, très mal la traiter, ce qui va provoquer tout un attroupement, un enchaînement de situations. Donc il y a cette première faute-là. Il y a une faute plus métaphysique, c'est-à-dire la faute originelle. C'est-à-dire qu'on est tous, à partir du moment où on est né, on est condamné à mourir et on est tous, sujet de la faute. Et il y a une troisième faute qui est même pas hors champ, elle est hors film. Et cette faute-là, elle est pas chez les personnages. Elle est pas dans l'œil pervers ou prétendument pervers du cinéaste, mais elle est chez le spectateur. Et c'est cette faute-là qui saute aux yeux, parfois, nos fautes intimes, quand on regarde un film de Haneke.
Manu.
C'est ce qui expliquerait ce que Haneke dit quand il dit « si les gens regardent mes films, c'est qu'ils en ont besoin ».
Oui. Oui, je crois que très sérieusement, l'époque, on est
un peu pervers.
Oui, tout, comme... oui, on en conviendra. Ça fait un petit peu directeur de conscience du XVIIe siècle. C'est-à-dire que si vous avez commis cette faute, c'est donc que vous avez votre responsabilité là-dedans. Néanmoins, je crois que notre époque est tellement prompte à chercher un autre de la faute. On cherche toujours un responsable à l'extérieur, un mal qui viendrait du dehors. C'est la faute des politiciens pervers, c'est la faute des terroristes, c'est la faute des machins. Certes, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, quand on dit c'est la faute de l'autre, ou alors c'est la faute du cinéaste pervers qui m'oblige à regarder ce film, d'ailleurs, on a toujours le choix de regarder le film ou pas, de le regarder jusqu'au bout ou pas. Et ensuite, quand on dit c'est la faute de cinéaste, on s'épargne le travail plus intérieur de chercher pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de voir ce film, qu'est-ce que ça mobilise en nous comme affect, etc. etc.
À la seule différence, on a toujours le droit de ne pas faire quelque chose, mais généralement, on ne fait pas quelque chose quand on l'a fait une fois et qu'on sait qu'on n'aime pas, on ne recommence pas. Mais un film, on sait qu'on a le droit de ne pas le regarder, mais quand on n'en sait rien et qu'on a juste lu trois lignes et trucs, on ne peut pas décider de ne pas le voir. Parce qu'à un moment, on a été élevé dès qu'on est petit, on a une assiette, il y a des épinards et il y a de la purée, on n'a pas envie de manger des épinards et on a des parents qui, dès l'âge de 3 ans, on dit « goûte ». Non mais j'aime pas, mais goûte au moins. Donc en fait, on est élevé comme ça. Donc on va goûter à un film d'Haneke ou on va goûter à un film de qui que ce soit et après. Si la personne y retourne, là, votre discours, tiens, je suis complètement d'accord avec vous. Mais la première fois, c'est juste quelqu'un qui, si on aime le cinéma, on ne peut pas passer à côté d'Haneke, ni de Kurosawa, ni de Ingmar Bergman, ni de Fellini, ni d'Almodovar, ni de Godard. Et c'est après qu'on dit, moi, je ne suis pas fou. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Tout à fait, parce qu'il y a des gens, je me suis aperçu que Haneke partageait avec Lars von Trier, par exemple, le triste privilège d'être le cinéaste pour qui on dit « Ah, je déteste Haneke, mais as-tu vu un de ses films ?» Non, mais je le déteste, comme si son nom à lui seul incarnait un absolu du mal et de la perversion dont il fallait se prémunir.
Comme à tous nos invités, Sarah Chiche, on vous a demandé un son qui vous a marqué, c'est un autre cinéaste, on y va.
Thank you.
identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Sarah Siche?
Pour plusieurs raisons. D'abord,
Qu'est-ce qu'on écoute?
Oui, on écoute l'Andantino de la sonate numéro 20 de Schubert. Qui a été utilisé par Robert Bresson dans son film de 1966 Au hasard Balthazar raconte la vie et le destin d'un âne depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc là, l'Andantino, c'est le moment de la mort de Balthazar. C'est un son qui me touche particulièrement pour une raison d'abord très personnelle, c'est que moi-même j'avais un âne quand j'étais petite, qui est mort quand j'avais 20 ans, voilà, et que je continue à pleurer parce qu'il a accompagné bien de mes joies et de mes peines. Ensuite, parce que ce film de Bresson m'a énormément marqué, le personnage central, l'acteur principal, c'est donc un âne, et un âne, disait Bresson, n'a pas de psychologie, il a juste un destin. Et pour moi, qui ai été formée à la psychanalyse, c'est un beau travail justement de dépsychologiser tout ça et de m'intéresser à la nudité et à la vérité des choses sans chercher à tout interpréter. Je pense qu'il ne faut pas chercher à tout interpréter d'un film.
Ce qui m'étonne le plus dans les arbres.
L'amour, ça se joue à deux, on prend son temps.
Le reste est totalement accessoire.
Eh bien, merci à nos invités. Vincent Lindon, La Loi du Marché, le film de Stéphane Brisé, est en sélection officielle à Cannes, sorti en salle mardi prochain. Sarah Siche, Éthique du Mikado, apparu aux éditions des Presses universitaires de France. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Ce qui m'étonne le plus dans les arbres, c'est la disproportion incroyable entre la sobriété de leurs besoins et puis la formidable réalisation qu'ils ont fait avec ça.
Demain, ce sera une émission en extérieur, direction la Biennale internationale d'art contemporain de Venise. Avec Manu, on y était. Céleste Boursier-Mougenot est au programme avec la commissaire Emma Lavigne. À leur côté, les artistes Boris Achour, Vincent Mécène et Mathieu Aboninck. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manu Farine, Aïssa Touendeuil, Elsa Béranger, Journal de la Culture, Adrien Nazelli, chronique Jean-Marc Lanane, à la prise de son Bruno Gagnère, Fontanini et Emmanuel Mance-Duncan et à la réalisation Lise Combe.
Il est 19h55, vous êtes France Culture, c'est bien.